bonjour et merci de vous savoir très nombreux, comme d'habitude, à l'écoute de Patara, le débat politique de Radio Ndike Luka. Nous allons évoquer avec nos deux invités les conséquences directes de la guerre en cours au Soudan sur les populations des préfectures de la Vakaga et du Bamingui-Bangoran. Les villes centrafricaines frontalières avec le Soudan subissent directement l'impact de la guerre, pour ne pas dire qu'elles sont menacées. Non seulement les populations du nord-est de la République centrafricaine se ravitaillent en produits de première nécessité du Haut-Soudan, et au Soudan du Sud, la coordination des actions humanitaires de l'ONU en République centrafricaine, OCHA, alerte déjà sur l'impact de la crise soudanaise en République centrafricaine en termes d'accueil et de sécurité. Question: que fait le gouvernement centrafricain, bien sûr, pour éviter le pire dans ces villes précitées? Pourquoi Bangui ne réagit-elle pas encore face à cette guerre au Soudan, et que faut-il craindre face à cela? Ce sont les grandes lignes du débat politique d'aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois M. Aristide Priant-Reboisse. Bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs de Ndeke Luka.
Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation Civique, ancien candidat à la présidentielle de 2020, et puis écrivain centrafricain, M. Paul Cressan Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile, docteur en sciences politiques et aussi ancien chercheur. Bonjour.
Bonjour Armando, bonjour aux auditeurs de la radio Ndeke Luka.
Le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Vous êtes ancien candidat à la présidentielle, vous ne voulez pas écouter ça, hein? Ça vous fait tiquer?
Non, je suis content au moins qu'on me rappelle ça.
Voilà, ouvrons le bal avec vous, monsieur le ministre. La guerre au Soudan et ses corollaires sur ses voisins, notamment la République centrafricaine, c'est le mot bilan de ce débat d'aujourd'hui. Nous sommes au 15e jour consécutif. Ce samedi, des combats qui ont éclaté au Soudan entre l'armée et les paramilitaires de forces de soutien rapide. Hein. Selon le bilan des organisations non gouvernementales, le conflit a déjà fait des centaines de morts malgré un cessez-le-feu de 3 jours étendu pour 72 heures supplémentaires. Monsieur Reboisse, que vous inspire cette crise en ce moment et surtout ses conséquences sur la République centrafricaine?
Merci Armando d'être invité par vous. Vous m'avez présenté en tant qu'écrivain et mon dernier ouvrage en Afrique. Tout ce que vous dites, j'ai déjà écrit. Ma première publication date d'abord de 2003 sur la crise du Darfour et ses conséquences multidimensionnelles dans toute la bande de Sahel. Et effectivement, la crise libyenne de 2011 n'a fait qu'accentuer et donner encore les outils en termes d'armement nécessaires pour amplifier ce qui se passe. En tout cas, c'est prévisible. C'est prévisible et ça va encore s'empirer. Et je sais que bon, la République centrafricaine, les pays frontaliers avec le Soudan, comme le Tchad et la RCA, le Sud-Soudan aussi, l'Égypte et je dirais l'Érythrée et l'Éthiopie, ont de quoi s'inquiéter. Et vous savez que nous avons des acteurs qui sont des chasseurs de territoires déstabilisés. Nous devons prendre des dispositions, un, pour accueillir les réfugiés. C'est ce que le gouvernement a commencé avec CICR. Il y a des dispositions qui sont prises. Et c'est dans la tradition de la République centrafricaine. Nous avons accueilli beaucoup de réfugiés venant de l'Éthiopie, du Tchad voisin et du Soudan. C'est dans notre tradition. Mais c'est pas aussi sans danger, c'est pas aussi sans risque, parce qu'il y a aussi, vu la conjoncture actuelle, d'autres groupes armés peuvent aussi s'infiltrer et venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes armés qui sont nombreux aujourd'hui, qui cherchent des trésors de guerre. Il se trouve qu'on est un pays riche, nous avons des mines, donc il y en a qui vont sans doute profiler dessus. Donc, le deuxième axe de l'intervention de l'État se trouve dans la prévention sur le plan sécuritaire. Et le président de la République, effectivement, dans son discours de 30 mars, dans le paragraphe 48, avait parlé, interpellé la sous-région d'une manière de gestion concertée en guise de prévention de ce phénomène de crise lié au terrorisme, où nous avons plus des gens qui cherchent la conquête des pouvoirs des États, mais qui cherchent à se territorialiser. Et donc, la porosité des frontières peut être aussi une source de vulnérabilité pour la sous-région. Donc, là, il faut à ce niveau-là un schéma concerté pour permettre de gérer cette situation. Maintenant, sur le plan politique, il faudrait dire les choses clairement, que c'était prévisible et que les efforts, effectivement, du gouvernement pour prévenir cela, c'était de donner les moyens de parachever la reconquête du territoire. Aucun pays n'est à l'abri, ni la RCA, ni le Soudan, ni la sous-région. Et donc c'est quand même important pour que le président de la République, c'est vrai, aujourd'hui il a eu encore une responsabilité politique, il gère la CEMAC qui est pour moi la conférence des chefs d'État, qui est l'organe suprême de processus de prise de décision, devrait aussi naturellement proposer à ses pairs de mener encore une réflexion puisqu'il avait déjà dit ça lors de son discours. Donc tout ça là, c'est de, il faudrait mutualiser les efforts de deux côtés pour permettre de limiter les dégâts, éviter les infiltrations et maintenant pour ne pas être encore surpris davantage. Donc le gouvernement reste vigilant, déploie les moyens de renseignement, déploie les moyens avec la présence des partenaires, etc., pour que d'une manière concertée, nous puissions bien filtrer les gens pour ne pas que ceux qui viennent comme des réfugiés aujourd'hui puissent revendiquer autre chose et abuser de notre hospitalité.
On y revient pour décortiquer, comprendre davantage ce que vous avez énuméré. À vous, M. Paul Cressan Beniga, sur la situation qui prévaut en ce moment au niveau du Soudan.
Je te remercie, Armando, d'avoir convié autour de cette table Monsieur le ministre Ribois, qui a rappelé à juste titre ici avoir commis quelques ouvrages sur le terrorisme, sur la crise du Darfour. Je dois dire que j'ai eu à lire ces ouvrages-là. Je pense que c'est un sujet qui nous interpelle. Et pour davantage mieux comprendre ce sujet, il faut le situer dans la crise qui est en train, d'embraser toute la sous-région Afrique centrale, mais également qui s'étend un peu au-delà de la sous-région Afrique centrale. Nous partageons un certain nombre de kilomètres avec les deux Soudans. Ce qui fait en sorte que cette crise au niveau du Soudan nous rappelle la nécessité de déployer un dispositif robuste afin de protéger nos frontières de ce point de vue-là, de ce côté-là, je veux dire. Parce que lorsqu'il y a cette crise, qu'on ne veuille ou pas, on va toquer à la porte de nos frontières. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas que les populations civiles qui viendront. Le risque, effectivement, que les groupes armés qui sont défaits ou pas puissent prendre de recul et trouver refuge dans les zones transfrontalières. Alors, pour moi, pour analyser cette crise au niveau du Soudan, il faut envisager deux scénarios. Il faut rappeler à juste titre ici que cette crise oppose deux hommes puissants au niveau du Soudan. Nous avons d'une part le général Arbouran et d'autre part le général Emeti. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut envisager deux scénarios. Le premier scénario, c'est de dire que si Arbouran remporte à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Et le deuxième scénario, c'est de dire que s'il arrive que c'est Emeti qui gagne, qu'est-ce qui va se passer? Et peut-être aussi envisager un troisième scénario, qui est celui de dire que on peut aboutir à un accord et que les deux restent au pouvoir. Alors, ou se retire aussi. Alors, lorsque Arbouran gagne, qu'est-ce qui va se passer? Il faut le dire et le rappeler à juste titre ici que du point de vue géopolitique, il y a deux blocs aujourd'hui. Nous assistons une fois de plus à une bipolarisation du monde. Nous avons le bloc occidental d'une part et le bloc reconstitué de l'ancien Union soviétique, j'ai envie de dire de la Russie, de ses alliés et d'autre part. Et quand on voit le profil ou encore les relations entre la Russie par exemple et le général Emeti, si jamais Arbouran gagne, c'est-à-dire que la porte d'entrée par la main rouge de la Russie est presque fermée. Et ceux qui sont considérés comme des alliés, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit hors des frontières africaines de la Russie, peuvent prendre un coup, peuvent subir des coups au plan géopolitique. Il en est de même si on rentre dans le deuxième scénario, qui est celui de dire que c'est le général Emeti qui gagne. À partir de ce moment-là, ceux qui sont de l'autre bloc peuvent effectivement subir des conséquences.
L'autre bloc, que ce soit arabe ou bien.
Je vais répondre à cette question, que ce soit au plan politique, que ce soit au plan sécuritaire. Mais ce qui m'intéresse dans le cas de ce débat, c'est de revenir au cas centrafricain. Il faut le dire, même si le ministre ne va pas aller loin sur cette question-là, la République centrafricaine a des relations avec le Soudan. Et il y a même une forme de coopération de coopération du point de vue des services de renseignement. Mais au risque de me tromper, cette porte notre porte d'entrée, c'est davantage le général Emiti. Et donc, de ces deux scénarios, s'il perd, ça peut avoir des conséquences. Et il a fait une analyse sur le Darfour. Par exemple, le bastion du général Emiti, c'est le Darfour, en revenant vers le côté centrafricain. S'il est défait à Khartoum, l'hypothèse pour qu'il puisse prendre refuge dans le Darfour n'est pas à écarter. Et à partir de ce moment, tout dépendra de comment est-ce qu'il va se comporter.
Et se reconstituer.
Ça va de soi. C'est pourquoi je dis comment est-ce qu'il va se comporter. Il peut renoncer. Il peut décider de reconstituer son groupe et relancer les offensives. Et quoi qu'il en soit, au niveau de nos zones frontalières, nous serons toujours sollicités. Et c'est à nous de définir une politique permettant d'assurer la sécurité au niveau de nos frontières.
Oui, monsieur le ministre, vous voulez rebondir tout à l'heure sur la question de la porosité de nos frontières, parce que la crainte aujourd'hui, c'est que depuis longtemps, de voir ne cesse de dénoncer la libre circulation qui n'est pas aussi rassurée au niveau de nos frontières, et surtout cette porosité, cette fluidité risque bien fort de causer beaucoup de problèmes à la République centrafricaine face à ce qui se passe en ce moment au Soudan.
Le constat est réel. À partir de ce constat, il faut dire que la libre circulation des personnes et des biens peut aussi être interprétée comme la circulation du danger et des dangereux. Il y en a qui circulent avec des fagots, des liams, il y en a qui circulent avec des grenades. Et donc c'est une réalité. Je ne voudrais pas rentrer dans les analyses de M. Cressant, que je trouve d'ailleurs pertinent et juste, mais je peux encore dire plus que ça. Mais une chose est vraie, c'est la cuisine interne. Il n'y aura pas un vainqueur ni un vaincu. Ils seront tous perdants, quel que soit celui qui gagne. Je pense qu'il y a aussi d'autres voix qui s'élèvent avec force. La voix de la société civile, la voix de pouvoir au civil, qui permettra aux deux de rester concentrés. Parce que les deux entités... Ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre personne n'est capable de tenir l'assaut d'un désordre qui pourrait encore venir du Darfour. Parce que le Darfour, je pense que la complication est telle qu'on ne peut pas tout dire les choses ici. Mais entre-temps, il y a d'autres acteurs que je trouve très dangereux, mais très très dangereux. C'est les trois acteurs que je trouve, il y a l'Al-Qaïda dans le péninsule arabique, qui aujourd'hui est en perte de vitesse, qui peut aussi se reconstituer autour de cette crise, parce que pour eux, c'est des chasseurs de territoires déstabilisés. Vous avez l'ACMI qui a perdu beaucoup avec la reconquête des territoires au Mali et au Burkina, qui peut aussi se reconstituer là. Vous avez aussi le volet Al-Qaïda avec l'héritage de Dr Ayman al-Zawahiri, qui aussi peut aussi se reconstituer pour créer des états-majors mobiles.
Même le Boko Haram.
Le Boko Haram, et voilà, le Boko Haram, etc. Il y a beaucoup d'entités qui peuvent aussi se ressurgir et poser des problèmes. Donc aujourd'hui, l'émergence d'un État fort, le contrôle de son territoire aujourd'hui peut être un achoppement à beaucoup de choses. Voilà pourquoi je pense à une politique de gestion concertée. La prévention ne peut pas se limiter à la RCA. Il est clair qu'il faudrait poser le problème, mais poser le problème de la manière la plus sobre possible. Et là, aujourd'hui, la question de Darfour n'a pas été résolue par les Nations Unies. Il y avait au moins 15 ans des Nations Unies, il y avait au moins 13 000 fonctionnaires des Nations Unies, plus de 1000 et quelques ONG. Mais la situation a perduré jusqu'à ce que le président Déby paix à son âme, qui s'est levé pour aller voir Omar el-Béchir pour lui dire, mais je pense que le temps, il y a un temps pour tout. On est assez tiré entre les pattes, mais il est temps pour nous de chasser les Nations Unies, chasser d'autres intermédiaires et nous-mêmes nous engager à régler le problème de porosité de nos frontières. Et c'est comme ça que la crise du Darfour a été résolue grâce à l'engagement de défunt paix à son âme, le président Déby et le président Omar el-Béchir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le Tchad, c'est encore plus compliqué que ça. Mais très compliqué, parce qu'il y a le Boko Haram, effectivement, qui risque d'avoir la puissance nécessaire de poser de problèmes au Tchad. Il y a aussi le nord de la Libye. Vous savez, la dernière crise qui a remporté la vie du président Déby venait du nord du Tchad. hein, vous voyez, et aussi ces rebelles Touareg, etc., qui géraient la garnison de Kadhafi entre-temps, et qui sont partis avec beaucoup d'argent, beaucoup d'armes, beaucoup d'or. Donc, tout ça, là, ça crée ce qu'on appelle l'empire social et politique, et donc qui risque d'être imprévisible. Donc, vous savez que, comme je vous ai dit, tout est écrit d'avance. Les États ne doivent pas être surpris. J'avais écrit cette histoire et les conséquences en 2003, c'est arrivé. J'avais aussi prévu dans mon dernier livre, mais c'est encore le début. Vous voyez ? Donc chaque État doit s'engager avec un,
oui, mais, dans le cadre. Mais c'est effectivement, hein, parce que lorsque vous évoquez tout ce danger qui guette les États, surtout de la sous-région, mais beaucoup plus la fragilité de la République centrafricaine, c'est ça vraiment le mobile de ce débat d'aujourd'hui, parce que les actions gouvernementales, les Centrafricains se posent cette question, pourquoi aujourd'hui le gouvernement n'arrive pas à déployer par exemple des forces de l'ordre et de sécurité pour déjà contrôler ses frontières, parce que certainement si ça chauffe de l'autre côté, les gens vont courir, descendre ici en République centrafricaine, mais ça va causer davantage de problèmes.
Je vous ai dit, c'est un combat qu'on gagne plus avec le renseignement. Déployer les gens sur le plan physique ne va pas forcément résoudre les choses. L'État centrafricain n'est pas forcément faible. Nous avons eu affaire à un mouvement rebelle amplifié avec les signatures de terroristes. Mais nous avons tenu leur assaut. Nous avons aujourd'hui la RCA considérée comme un pays à capacité militaire, capable de se défendre. Vous avez évoqué tout à l'heure, bon, on va revenir, des rebelles qui demandent qu'on leur cède une partie du territoire, etc. Est-ce que c'est dans la tradition des rebelles de demander la permission avant de rentrer en Centrafrique? Souvent, ils rentrent sans protocole, ils rentrent, ils n'ont pas besoin, ils rentrent, et puis après, c'est 5 ans plus tard qu'on découvre que Babalade est ici, c'est 5 ans plus tard qu'on découvre qu'il y a tel. Mais aujourd'hui, s'ils nous demandent, ça veut dire qu'ils aperçoivent la pertinence et la présence de l'État. Et donc, on ne peut plus rentrer chez nous, sinon on risque de donner la leçon de politesse. Donc ça, là, nous avons les moyens et tout ne peut pas être dit sur le plateau. Je vous ai dit qu'il y a
On parle du déploiement. On ne peut pas vous demander de nous dévoiler, par exemple, le secret sécuritaire, le secret de défense. Pour l'instant, qu'est-ce qui se fait,
Armando? Oui. Monsieur Armando, le travail de reconquête est effectif. Les déploiements se font sans cesse. Là, aujourd'hui, je vous parle, mais il y a la force de sécurité et de défense qui travaille. Mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, qu'on soit figé dans l'ancienne pensée de la stratégie, parce qu'on est dans une mutation, comme je vous ai dit, permanente de centre de gravité et de crise. Donc, il faudrait que nous ayons des forces de sécurité et de défense mobiles, capables de comprendre l'enjeu, les mutations et savoir tenir leur assaut. Je pense que les dispositions sont prises à ce niveau.
Oui, Monsieur Paul Christian Beniga, ici on parle même si la porosité des frontières avec la République africaine, avec ce danger, hein, le risque qui guette la République centrafricaine, on parle du déploiement des forces de défense et de sécurité pour contrôler cette situation et surtout ce qui se passe actuellement au Soudan au niveau de frontières.
Je n'arrive pas à comprendre l'analyse du ministre lorsqu'il revient sur le cas centrafricain. Je suis de ceux qui pensent que cette crise nous rappelle la nécessité, je le dis et je me répéterai jamais assez là-dessus, de déployer au niveau de nos zones frontalières un dispositif robuste. Et je l'ai très rapidement évoqué ici. J'ai dit il y a plusieurs scénarios et je me suis appesanti sur 2 scénarios. Prenons l'hypothèse où émettier des faits. J'ai dit très rapidement ici que nos services de renseignement travaillent avec les services de renseignement soudanais, mais nos services de renseignement ont une porte d'entrée au Soudan, c'est Emiti. Si par exemple Emiti est défait à Khartoum, à partir de ce moment-là, Emiti va prendre un recul et je suis sûr, et je suis convaincu, et il le sait d'ailleurs, le bastion de Emiti, c'est dans le Darfour. À partir de ce moment-là, il reviendra dans le Darfour. Mais ça va détériorer, ça peut impacter sur la nature de nos relations diplomatiques entre le Soudan, entre nous et le Soudan, je vais dire. Et aussi, lorsque Emiti est défait, il va dans le Darfour. Si jamais le combat se poursuit dans le Darfour,
la possibilité, effectivement, qu'il pénètre le territoire centrafricain n'est pas à écarter. Ce d'autant plus que le ministre le sait très bien. Le Tchad n'admettra jamais effectivement que Emeti puisse toquer à sa porte. On a déjà vu les dispositifs qui sont mis en place au niveau du Tchad dès que le combat a eu lieu au niveau de Khartoum. Et une ceinture de sécurité a été élaborée pour permettre à ce que effectivement, si jamais il y a des débordements, que ces débordements soient très vite contenus. Donc, je suis de ceux qui pensent que il faut être dans la projection, il faut être dans une analyse de projection, mais au-delà de la projection, il faut faire de la prévention. Je suis d'avis avec lui. Le renseignement, c'est une manière également de faire la prévention, mais il ne faut pas dissocier le renseignement d'un déploiement, d'un dispositif robuste au niveau de nos zones frontalières. Et lorsqu'il évoque, et on va y revenir, lorsqu'il évoque la question, par exemple, de nos frontières, je pense que Bambouti nous rappelle à juste titre, effectivement, que la question de la porosité de nos frontières n'est pas totalement réglée. Et il faut que nous ayons, effectivement, ce courage-là de le dire, et on va revenir là-dessus quand on va aborder cette question.
Oui, abordons l'autre volet de ce débat. Nous sommes informés, tout comme vous, de la demande rejetée des rebelles du Rassemblement populaire pour la justice et égalité au Tchad le 19 de ce mois d'avril. Ils ont sollicité des autorités centrafricaines l'installation de leur base arrière en vue d'attaquer le régime de N'Djamena. François Kossime Palato a lu pour nous la réponse de la ministre des Affaires étrangères centrafricaine.
Une semaine après la demande des rebelles du Rassemblement populaire pour la justice et égalité MDR de s'installer dans une localité centrafricaine à Bakaga, la réponse du gouvernement centrafricain est ferme. Pas question, la République centrafricaine ne peut servir de base arrière pour déstabiliser un pays voisin, martèle la ministre des Affaires étrangères Sylvie Baipotimo. Le gouvernement centrafricain condamne avec la dernière énergie ce qu'il qualifie de nouvelles provocations et assure le gouvernement tchadien ainsi que la communauté internationale de sa détermination à œuvrer de concert avec tous les pays pour mettre fin à la criminalité transfrontalière dans la sous-région. Le Tchad et le Centrafrique font partie des pays des Grands Lacs, de la CEAC ainsi que de la CEMAC. Pour le moment, le régime de N'Djamena n'a pas encore réagi à cette situation préoccupante.
Monsieur Paul Christian Beninga, vous avez écouté sur cette question. Il y a une nouvelle demande des rebelles de la coalition, des rebelles tchadiens qui souhaiteraient s'installer ici en République centrafricaine et puis prendre une bonne base arrière avant d'attaquer le régime de N'Djamena. Mais la réponse de Bangui, des autorités centrafricaines, est ferme. Cette situation vous inspire quoi tant que tel?
Alors, je dois dire que il y a des nuages dans les relations diplomatiques entre le Tchad et la République centrafricaine en ce moment. La réponse de la ministre en charge des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger est une réponse qui peut contribuer à dissiper ces nuages-là. Mais je dois rappeler aussi que quand vous allez dans Limpende, à 45 km de Pawa, à Betoko, et un peu plus, et peut-être à 5, 10, 15 kilomètres, au risque de me tromper, à Benermé, on nous signale la présence des rebelles assimilés également aux rebelles tchadiens. Et cette situation doit faire l'objet d'une clarification de la part de notre ministre des Affaires étrangères. Ça permettra effectivement de dissiper une fois de plus ces nuages-là. Mais je dois aussi rappeler à juste titre que très récemment, il y a une sortie très maladroite d'un officier tchadien qui aurait dit que prochainement, s'il y a eu quelques affrontements sur le territoire tchadien, il va poursuivre les auteurs de cet affrontement-là, quitte à ce qu'il arrive à Bangui. Alors moi, je dois saisir cette opportunité pour rappeler à cette autorité-là que la RCA n'est pas le valet du Tchad. La RCA est un État aussi souverain. Et pour une fois, je serai d'avis avec le ministre lorsqu'il a évoqué effectivement un changement dans les rapports de force. Aujourd'hui, la République centrafricaine est un État qui apprend à se faire respecter sur la scène internationale. Et donc, un responsable, une haute autorité d'un État voisin ne peut pas se permettre de tenir ce genre de discours. Ce genre de discours n'est pas aussi de nature à faciliter la fluidité dans nos relations diplomatiques. Et donc, je pense que de part et d'autre, nos États doivent faire des efforts de clarification, mais doivent également poser des actes permettant de dissiper ce nuage-là. La question, par exemple, des groupes armés qui sont à Benermé, non loin de Betoko, de mon point de vue, doit être clarifiée. Il y a un malentendu aujourd'hui, et j'entends dans la société certains Centrafricains dire qu'il y a les rebelles de la CPC au niveau du Tchad. Et à partir de ce moment-là, si la République centrafricaine peut abriter les rebelles tchadiens, ça s'explique. Non, je crois que c'est une erreur d'appréciation. Et je prends le ministre ici à témoin. Nous avons 3 ou 4 initiatives de paix aujourd'hui en République centrafricaine. La première initiative, c'est l'accord politique pour la paix et la réconciliation, paraphé à Khartoum et signé le 6 février à Bangui, qui a pris en compte un certain nombre de groupes armés. Mais lorsque la CPC a lancé son offensive, la CPC est constituée des signataires, d'une part de certains signataires de l'APPR et d'autre part de certaines personnalités qui ne sont pas signataires de cet accord-là. Et à partir de ce moment-là, il était question de demander à ce que ceux qui étaient signataires ou qui sont signataires de l'APPR puissent répartir dans l'APPR. En revanche, ceux qui n'étaient pas signataires étaient pris en compte dans la feuille de route de Luanda. Et c'est à ce titre-là que ces rebelles-là, notamment ces membres de la CPC, non signataires, j'ai envie de dire, de l'APPR, se retrouvent sur le sol tchadien. Il ne faut pas qu'il y ait une incompréhension et que ça justifie aujourd'hui le fait que nous ayons cette envie, par exemple, de dérouler le tapis rouge.
C'est le leader de la CPC qui se trouve, par exemple, au Tchad. Hein, ils sont en exil.
Alors ça, je ne peux pas le dire. Je doute. Est-ce qu'ils sont...
Ils sont en exil. Est-ce qu'ils...
Non, est-ce qu'ils sont...
C'est qui s'explique avec la situation de l'ancien président François Bozizé.
Écoutez, je peux comprendre parfois également la réaction du président Touadéra. Dire qu'ils ne sont pas actifs, je doute d'ailleurs. On se souvient de la dernière sortie du président Bozizé lorsqu'il était arrivé en Guinée-Bissau et qu'une analyse a été faite dans la presse pour dire qu'il a été totalement écarté du jeu politique centrafricain. Il a fait une sortie pour rappeler qu'il n'est pas écarté du jeu centrafricain. Donc on ne peut pas dire que du fait qu'il se retrouve aujourd'hui, ces groupes armés-là, au Tchad, ça empêche qu'il soit actif. Là,
je parle d'être actif sur le territoire centrafricain.
Oui, mais du moment où on est des leaders,
ils ne sont plus là.
Ma position sur la groupe armée, elle est connue. Je suis de ceux qui refusent catégoriquement que les gens prennent les armes pour justifier leurs revendications politiques. Cette position, je ne la changerai jamais. Et donc, pour moi, lorsque nous avons des gens qui ont pris les armes contre la République et qui se retrouvent aujourd'hui en exil, il faut pousser la réflexion. Ce d'autant plus que la plupart sont des récidivistes. À partir de ce moment-là, il faut être très, très... Vous voyez, par exemple, quand vous allez dans la zone de Cabo, vous allez dans la zone de Sido et autres, il y a les résidus. Il y a les résidus de la CPC. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas dire qu'ils sont totalement inactifs. Il faut vraiment être prudent de ce point de vue-là.
Et monsieur, sur cette question, la réponse de votre gouvernement sur la demande des rebelles tchadiens qui voudraient s'installer ici en République centrafricaine afin d'attaquer le régime de N'Djamena, j'allais dire.
Je pense que la réponse du gouvernement, c'est une réponse très cohérente. Et c'est une réponse tenue par la voie autorisée. Notre chef de la diplomatie qui est routinier, habitué, ce genre d'exercice de communication, et qui puisse s'efforcer dans notre logique d'engagement, dans notre le sous-ensemble, le système d'intégration parlementaire auquel nous appartenons. Vous avez la CEMAC, vous avez aussi le CENSAT. S'agissant de notre rapport avec le Tchad et le Soudan, c'est régi aussi par certaines dispositions de CENSAT qui disent clairement qu'aucun des pays, l'accord de Sirte par exemple, disent clairement qu'aucun des pays devrait abriter permettre à ce que l'autre pays soit déstabilisé à partir d'un pays tiers. Donc nous sommes en conformité avec nos engagements dans la sous-région et sur le plan international. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais faire comprendre que pour ceux qui estiment que l'État centrafricain en contrepartie pouvait aussi abriter des rebelles au même titre que le Tchad qui abrite CPC pour des raisons d'exil et autres, je dirais que cela n'engage pas le gouvernement. Ça, c'est des choses du quartier. Ça n'engage pas la voie autorisée s'est exprimée et donc je m'en tiens à cela. Mais ceci étant dit qu'il faut noter 2 choses. Les rebelles, naturellement, ne demandent pas la permission. Aucun rebelle étranger ne demande la permission pour entrer en Centrafrique depuis que la crise l'a commencé. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, ils ont demandé parce qu'ils savent qu'il y a l'autorité de l'État. Et notre réponse ne s'était pas fait entendre et c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, pour autant, est-ce que la menace est dissipée? Non. La menace n'est pas dissipée. Pour ceux-là, vous savez, communiquer, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent avoir doctorat en communication, mais qui resteront incompris. Quand vous prenez quelqu'un comme un officier tchadien qui a parlé, mais Monsieur Cressant a dit quelque chose d'important. La RCA, aujourd'hui, depuis l'indépendance, pour la première fois, est comptée parmi les pays qui ont une dissuasion militaire, qui ont une capacité militaire capable de se défendre. Donc, c'est-à-dire, quand tu traverses la frontière, sans cogner à la porte, on risque de te donner la leçon de politesse. Donc, ça là, il faudrait que ceux-là qui pensent qu'ils peuvent profiter de cette situation, on ne dit pas tout, mais on a les moyens nécessaires pour tenir n'importe quel schéma d'assaut, que ça soit par l'infiltration, que ça soit par l'offensive, avec une notion de front, on a les moyens, que ça soit aérien, terrestre, parce que voilà, pour essayer de gérer. Mais ce que je voudrais aussi faire comprendre, vous savez, c'est un débat assez sérieux que je ne voudrais pas me perdre dans des diversions. Quand vous parlez de déploiement de forces robustes, mais il faudrait d'abord faire une analyse. On ne peut pas se lever et dire, bon, allez là-bas. Mais ça aussi, ça peut être la diversion. Il y a des penseurs qui cherchent à nous déstabiliser et qui peuvent peut-être mettre la pression pour faire envoyer tout le monde vers la frontière. Ils peuvent sortir aussi vers RDC, ils peuvent sortir partout. Donc, on est dans une logique de vigilance. L'État, le gouvernement est dans une logique de vigilance. Nous travaillons, nous suivons les choses. Et il y a des gens qui sont payés pour réfléchir, travailler, anticiper. Et je pense que tout le monde est à pied d'œuvre. Une partie peut être dite, mais le secret de défense reste une force.
On n'a pas, par exemple, demandé le déploiement de toute l'armée, par exemple, non, je dis, à la frontière au niveau de Bambouti. Mais par exemple, allez-y.
Oui, mais je dis que la nature de la menace appelle à la vigilance, appelle effectivement à une constance, mais il faudrait évaluer. Et ça, je dis, je parle de renseignement. C'est important parce que normalement, si un rebelle veut venir rentrer par cette porte, il te dira pas. Il peut te dire, je veux rentrer par cette porte, ou il peut te donner des signaux qui te fera croire qu'il va rentrer par cette porte, il va rentrer par la porte du derrière. Et donc, tout ça, là, c'est des travaux de réflexion. Et je pense que les entités de force et de sécurité de défense opérationnelles avec les alliés travaillent et s'attellent déjà à la solution adaptée à cette situation. Maintenant, ce que je voudrais aussi faire comprendre à Cressant, l'affaire interne, vous savez que la RCA, nous avons eu aussi des antagonismes, nous avons eu des choses. Mais quand quelqu'un arrive à prendre le pouvoir, il n'y a pas de politique en matière étrangère. Parce que si c'est l'un ou l'autre, ils vont se confronter à une logique de besoin de sécurisation de leurs frontières. Que ça soit du côté du Tchad, que ça soit du côté de la RCA. À ce moment-là, la coopération, comme le président de la République avait même dit clairement, comme je dis, dans son discours du 30 mars, il est question aujourd'hui de créer ce qu'on appelle une frontière commune en matière de partage et de gestion de risques terroristes qui fait disparaître les notions de front, mais qui rend très mobile les centres de gravité. Et donc ça, là, c'est important de comprendre ça.
Oui, monsieur Pokesan Benga, vous voulez...
Deux réactions.
Oui, allez-y.
La première...
Vous n'êtes pas obligé de réagir.
Monsieur le ministre, gardez votre calme. La première, c'est de rappeler au ministre ici que je ne suis pas contre. Mais il doit savoir, et il le sait d'ailleurs, quand il parle de renseignements, il a eu à gérer les renseignements dans ce pays. Lorsqu'il y a une menace sur un territoire voisin, il y a un dispositif qui doit être pris. La preuve en est qu'aujourd'hui, on ne comprend pas la situation de Bambouti et on va en parler. Et il faut que je rappelle ça au ministre. Tout ce qu'il dit, les dispositions en ce qui concerne la réflexion, oui, je sais que il y a trop d'intellectuels en République centrafricaine, ils sont payés pour ça dans le gouvernement et autres, je leur fais entièrement confiance, mais rassurez la population. Dites à la population, monsieur le ministre,
et le concret,
qu'un dispositif a été mis en place au niveau de nos zones frontalières. Si vous voulez, je vais être un peu plus clair. Quand vous prenez... Lorsque vous prenez quelqu'un comme Emeti, qui a une relation très étroite avec Evgeny, avec Prigojine, avec le groupe russe Wagner, lorsque c'est Emeti qui gagne, on peut comprendre que la relation entre le Soudan et la République centrafricaine, pour, si je puis m'exprimer, de la sorte, relancer cette relation-là, il n'y aura pas assez de difficultés. Mais quand c'est Al-Burhan, il va de soi effectivement que Al-Bourani est informé des relations que nous avons, ou notamment nos services de renseignement ont avec Emeti. Et donc à partir de ce moment-là, il faut déployer doublement, il faut déployer des moyens permettant effectivement d'améliorer cette relation-là. Et donc moi je suis de ceux qui pensent que cette crise au Soudan nous interpelle à plus d'un titre.
On est dans la prévention et je vous dis avec soleil au cœur que ça n'arrivera pas. Vous savez, la République centrafricaine, laissez-moi parler, ce que vous craignez n'arrivera pas. C'est-à-dire que la République centrafricaine, dans la pratique des relations internationales classiques, c'est-à-dire que nous entretenons des relations avec les États, que ce soit Emeti, que ce soit Al-Ghouran, mais nous avons des relations avec le gouvernement du Sud-Soudan, avec le peuple soudanais.
Il faut mais est-ce qu'on parle du Soudan, pas le Sud-Soudan?
Non, le Soudan.
Mais est-ce que cela, mais cela n'empêche pas, soudanais. Même si le gouvernement est rassuré, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut contrôler les frontières. Il faut déployer des forces.
Je voudrais dire au peuple centrafricain que le gouvernement se donne le moyen de contribuer à la stabilité, à la sécurité de la population et du territoire. Et le gouvernement travaille à une garantie de la stabilité politique, que ce soit au centre, que ce soit dans les frontières. Mais une chose est vraie, nous poursuivons aussi les travaux de coopération avec les pays voisins, avec la sous-région, avec les institutions de système d'intégration parlementaire pour qu'une solution diplomatique soit trouvée. C'est dans notre tradition de ne jamais abriter une base rebelle, dans notre tradition de ne pas se réjouir des malheurs des autres, dans notre tradition de veiller à ce que les États voisins se tiennent en santé.
Mais revenons,
il a même parlé de cette conséquence directe de nos frontières, etc. Nous sommes en phase à des types de menaces que quand tu vois même que cela bouillonne vers, vers Peshawar ou vers...
Vers l'Ukraine?
Non, je ne veux pas aller jusqu'en Ukraine. Là où sévit les terroristes, il faudrait comprendre que la mobilité est telle que la frontière n'est plus, les frontières terrestres ou aériennes classiques ne suffisent pas. Mais il faut aller un peu plus loin. Parce que même si ça se passe au Pakistan, aujourd'hui, Al-Qaïda sévise dans cette région. Vous avez l'Al-Qaïda dans le péninsule arabique et au Maghreb islamique, mais ils prennent leur base à Peshawar, dans cette région waziristante, l'Inde, le Pakistan, là-bas. Mais cela a des conséquences directes. Au Soudan, et etc. Et l'Égypte aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, avec la montée en puissance de radicaux, des wahhabismes qui côtoient la mer Rouge, etc. Mais tout cela là ne peut qu'amplifier, embraser la sous-région. Donc voilà pourquoi, pour moi, l'initiative au niveau de la sous-région, surtout CENSAT, ça doit être une urgence, aussi de l'Union africaine, c'est une urgence, et des États. Vous voyez, donc ça là, nous sommes à la manette, voilà pourquoi,
revenons sur la demande de ces rebelles,
les cadres de réflexion.
Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut déjà parler de cette demande des rebelles tchadiens, même si aujourd'hui la réponse des autorités centrafricaines elle est ferme, pour interdire que son territoire puisse servir de base arrière à ces rebelles tchadiens, mais qu'est-ce qui a été fait d'une manière concrète pour mettre fin? Parce que si on parle de porosité de frontières, et si on prend des décisions, on dit, on ne veut pas que vous vous installez ici, mais on ne contrôle pas les frontières.
Vous
après,
savez,
ça ne va pas causer de problème.
Non, vous savez, c'est Cressant qui veut introduire des doutes dans la réflexion du gouvernement. Il a voulu faire allusion à ce qui se passe à Bétoko. Mais vous savez, ceux qui viennent de Bétoko sont des Tchadiens. Ils sont dans notre espace CEMAC. Il y a des gens qui peuvent rentrer parce que quand on ne rentre pas forcément en tant que chef de guerre. On peut prendre par exemple le visage d'un commerçant et rentrer avec et après poser des problèmes. Mais entre-temps, ceux-là qui sont à Bétoko n'ont jamais posé un acte comme ceux-là qui nous ont demandé de leur donner le territoire. Et donc, le travail est fait régulièrement. Les services de renseignement dans le monde, ça je vous dis, monsieur Cressant, on est obligé de coopérer avec tous les États du monde. Que ce soit les États-Unis, il va dire non, je ne discute pas avec les terroristes, mais ils travaillent en ce moment dans le renseignement avec les talibans en Afghanistan. On est obligé, quand on est État, de travailler avec toutes les nations. Quelle que soit la couleur ou la forme de celui qui est au pouvoir, parce que le danger du Tchad peut venir de la RCA ou de Tchad, de RCA.
Et vice-versa. Oui, monsieur Pokrissan Binigan.
Donc, c'est ce que vous devez comprendre, monsieur.
Oui. Monsieur le ministre, vous faites de la diversion. Et je vais vous dire pourquoi vous faites de la diversion. Vous venez de faire une affirmation qui est d'une extrême gravité. Vous faites de la diversion parce que lorsque nous appartenons à des organisations intergouvernementales, en l'occurrence la CEMAC, la CEAC, l'Union africaine et bien d'autres, ça ne doit pas nous empêcher de penser notre politique nationale.
Mais ça existe.
De défense, bien évidemment, mais vous ne l'évoquez pas. Vous ne l'évoquez
mais
pas.
Non, j'évoque, mais vous refusez de comprendre. Faites un effort de comprendre ce que je dis. Si vous ne comprenez pas, vous appelez diversion. Dites que je n'ai pas compris et demandez-moi de vous expliquer.
Vous faites encore de la diversion. Finalement, en aucun cas, vous avez évoqué ou vous avez mis le doigt sur le dispositif centrafricain. Vous renvoyez la responsabilité de cette affaire-là aux organisations intergouvernementales. En l'occurrence, la CENSAD, la CEAC et bien d'autres, c'est ce que vous avez évoqué.
Non, c'est des
en
moyens supplémentaires que je demande.
C'est maintenant que vous le précisez, en vous appuyant sur le discours du chef de l'État. C'est de la diversion. Dites-nous clairement ce que l'État centrafricain fait dans ce cas d'espèce, ça va rassurer les centrafricains. Et ne dites pas que je sème le doute dans la réflexion du gouvernement. Non, je suis un chercheur, je suis un passeur libre. Et vous le savez, je ne suis pas tenu de prendre pour argent comptant ce que dit mon gouvernement. Mais j'ai la responsabilité d'analyser les faits qui sont à ma disposition. Donc
oui,
vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller.
Des éléments factuels.
Je peux ne pas accepter vos éléments. C'est la liberté du chercheur.
Et
quand je le refuse ou quand je refuse vos éléments, j'avance des contre-arguments pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que je refuse. Je ne fais pas du pessimisme. Quand on s'accorde sur un point, je vous dis qu'on est d'accord là-dessus. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points. Cela dit, vous dites les gens sont rentrés sur le territoire centrafricain comme des commerçants après se constituent.
Non, je n'ai pas dit ça.
Ce que vous avez dit. Voilà. Même s'ils peuvent rentrer, et vous avez dans le cas de Bétoko, admettons cette hypothèse-là, monsieur le ministre, qu'ils sont rentrés sur le territoire centrafricain comme étant des commerçants, et que sur le champ, on les voit se constituer en groupe armé. Aussitôt, le gouvernement doit clarifier sa position vis-à-vis de ces groupes armés-là. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nier, monsieur le ministre, qu'à Benermé, et pour ceux qui connaissent la région de Limpende, notamment la ville de Pawa, Bétoko, pas plus de 20 km de Bétoko, il y a des groupes aujourd'hui. Et il faut que le gouvernement clarifie.
Des groupes étrangers.
Mais il l'a dit lui-même, c'est des Tchadiens. Il le sait, il vient de le dire. Donc le problème qui se pose, c'est je demande à notre gouvernement de clarifier sa position là-dessus. Vous savez quel est l'intérêt de cette démarche? Ça permet effectivement de rassurer aussi les autorités tchadiennes. Ce d'autant plus que vous le dites vous-même. La démarche de la République centrafricaine, c'est d'éviter effectivement une escalade de violence, une détérioration de notre relation diplomatique avec le Tchad. Donc clarifions notre position. Et si nous avons également des demandes à faire aux autorités tchadiennes afin qu'elles puissent clarifier leur position sur un certain nombre de points, je pense qu'il faut le faire.
Oui, monsieur le ministre.
Monsieur Beninga, mais il y a des combats, il y a le détachement. D'une manière, nous avons appris la mort de nos soldats, que ce soit à Bétoko, que ce soit à Limpende, mais il y a le combat. Parce que si on déniche, ou s'il y a une hostilité, non, je ne suis pas là pour rentrer dans ces détails, mais il y a des forces de l'ordre qui sont tombées. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a des militaires qui sont morts, tombés sur le champ d'honneur.
Je vais demander la précision. Je n'ai pas nié le fait que les militaires soient tombés.
Mais c'est un travail.
Mais je dis, est-ce qu'il y a affrontement entre ces groupes et nos soldats? Non.
Oui, mais bien sûr.
Non, monsieur le ministre, vous ne pouvez en aucun cas évoquer.
Il y a eu des combats, des affrontements, des embuscades, etc. Si vous dites qu'il n'y a pas d'affrontement, c'est mépriser la mémoire de ceux qui sont tombés.
Vous êtes en train d'instrumentaliser ce que j'ai dit.
Non.
Je ne tomberai pas dans ce piège-là.
Non,
j'ai demandé le
cas des ailleurs.
J'ai demandé les groupes armés.
Ceux qui évitent les débats.
Non, je ne le dis pas. Vous savez que je le connais aussi par cœur. Vous savez que nous avons les mêmes centres d'intérêt de ce point de vue-là.
On n'a pas les mêmes approches en matière d'analyse.
Mais c'est normal.
Non.
Ce n'est que normal. On ne peut pas avoir forcément les mêmes approche,
voilà.
Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui donner un seul exemple d'un affrontement entre nos forces de défense et de sécurité et ces groupes qui sont à Benermé. Il n'y en a pas.
Je te dis, il y en a. Rapprochez-vous de l'état-major, vous aurez des informations.
Maintenant, monsieur le ministre, nous avons un cas similaire à Bambouti où une faction de l'armée sud-soudanaise a pénétré le territoire centrafricain pour attaquer les positions des miliciens Zandia Nikpigbe. Le gouvernement n'a dit mot depuis plus d'un mois quand cette situation a commencé. Est-il dépassé par le cours des événements, monsieur Iriboise?
Vous dites quoi?
Oui, je parle de cette situation à Bambouti.
Ah d'accord, le gouvernement suit ça. Moi, à titre personnel, j'ai travaillé dans cette région. J'ai travaillé à Bambouti, j'ai travaillé à Djema. C'est vrai qu'il y a eu mouvement. Vous savez qu'à Bambouti, dans ces régions-là, il y a une seule et même ethnie, effectivement, qui sont en mouvement permanent. C'est les ethnies Zandé, qui se trouvent au Sud-Soudan, qui se trouvent de l'autre côté du Sud-Soudan, dans une ville qui s'appelle Yambio. Beaucoup de Centrafricains.
Au Congo aussi.
Zandé, il y a au Congo. Du Congo, c'est dans une ville qu'on appelle Dungu. Et il y a aussi du côté de l'Ouganda. Joseph Kony lui-même est un Zandé. Je vous rappelle qu'il a au moins plus de 26 femmes Zandé. Joseph Kony a plus de 70 enfants. Cela sous-entend qu'effectivement, il y a quand même des sujets d'inquiétude, même si... Et cela ne se mesure pas forcément au déplacement de la masse de la personne. Cela peut aussi se déplacer pour question de survie, etc. Et cela aussi, il y a aussi une petite masse qui peut être aussi nuisible que cette masse, cette grande masse.
Oui, de surtout beaucoup plus de l'infestation de cette fraction de l'armée sud-soudanaise ici à Bambouti qui
vous
a
savez,
posé beaucoup de dégâts.
La seule menace que nous
jusqu'à
avons...
Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus.
Voilà, il y avait deux menaces identifiées du côté du Sud-Soudan sur le plan historique. Nous avons eu des problèmes avec, à l'époque de John Garang, des braconniers et ceux aussi qui viennent. Je vous dis que quand il y a une crise, il y en a qui viennent pour chercher les mines, il y en a qui viennent aussi pour exploiter, pour consulter leur effort de guerre, leur trésor de guerre pour pouvoir pour leur propre survie. Et il y a aussi deuxième type de menace qui est la LRA, où aujourd'hui Joseph Kony est complètement disloqué parce qu'il y avait eu un travail de la force régionale d'intervention qui avait réduit sa capacité de nuisance, mais il y a une mutation encore permanente à ce niveau. Et ça aussi, le gouvernement a pris ses dispositions pour essayer d'être...
Monsieur Paul Christian Benenga, oui.
Alors finalement, je n'arrive pas à identifier, à percevoir ce que le gouvernement a fait face à ces menaces-là. Il faut rappeler que Bambouti...
Il s'agit Bambouti, de quel type de menace?
Bambouti, c'est vous qui êtes le journaliste? Bambouti est une ville, j'ai envie de dire, qui a été pratiquement abandonnée par l'État centrafricain. Quand je dis l'État centrafricain, je ne parle pas forcément du régime du président Touadéra parce que je le vois déjà réagir. Il a évoqué le cas...
Non, mais c'est faux, puisque j'ai travaillé à Bambouti.
Il a évoqué le cas... Vous avez travaillé partout.
Dans le cas de l'Union
Vous allez travailler partout, sauf à Binermé, n'est-ce pas? Alors, donc, dans le cas Bambouti, il a évoqué la question de la LRA. Après la LRA, l'idéal serait que les forces de défense soient déployées parce qu'il s'agit là d'une zone frontalière pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Mais ce qui s'était passé, c'est que après la LRA, il y a eu la CPC. Bon, pas la CPC, mais l'UPC d'Ali Darassa.
Qui fait partie de la CPC.
Bien évidemment, l'UPC d'Ali Darassa, qui pendant de longues années a pris la population de Bambouti en otage. Et à un moment donné, il y a une sorte de commerce, une relation commerciale qui s'est établie entre l'UPC et les forces sud-soudanaises de l'autre côté. La nature ayant horreur du vide, il y a des mouvements d'autodéfense qui se sont constitués pour combattre l'UPC et ayant défait l'UPC dans la zone, du côté du Sud-Soudan, les gens n'ont pas pu maintenir l'opportunité qu'ils avaient de commercer en pénétrant le territoire centrafricain. Et donc, ils estiment en réalité qu'il va falloir défaire ce mouvement d'autodéfense.
Et
nous avons été agressés. Ça, il faut le dire. Il s'agit là d'une agression.
Parce que c'est, parce là-bas, que c'est une
force,
armée,
voilà, une armée régulière qui a décidé de s'en prendre à ces mouvements d'autodéfense. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois de plus, j'interpelle l'État, j'interpelle le gouvernement afin de déployer des moyens permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur le territoire centrafricain, notamment dans la localité de Bambouti. Mais je voudrais également attirer l'attention du gouvernement sur le fait que j'ai eu dire que certaines personnalités, je ne parle pas du gouvernement, mais certaines personnalités politiques se réjouissent de la victoire de ces mouvements d'autodéfense. Oui, mais il faut être très prudent. L'histoire de la République centrafricaine, notamment l'analyse des groupes d'autodéfense, révèle que c'est des mouvements qui sont très souvent récupérés politiquement et ça complique un peu plus tard la situation. Je peux évoquer plusieurs exemples. Vous prenez le cas, celui qui est décédé récemment. Zakaria Daman. Alors, quand Zakaria avait créé son mouvement, Zakaria fut un braconnier. Quand il a créé ce mouvement, à la limite, un pisteur. C'était un mouvement d'autodéfense. Après, politiquement, ce mouvement a été récupéré et c'est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous prenez les Antibalaka. C'était pareil. Et donc, l'histoire des mouvements d'autodéfense dans ce pays, il faut l'apprendre avec beaucoup de sérieux. Et donc, du moment où nous apprenons que dans la localité, des mouvements d'autodéfense ont été créés et ça permet d'assurer la sécurité, c'est bien, il faut saluer cette dynamique-là. Parce que la nature ayant horreur du vide, les gens se sont conscients en autodéfense pour se défendre. Mais après cela, il faut que l'État puisse très rapidement rétablir la situation. Sinon, on peut avoir une nouvelle révolte.
Une question pour vous, monsieur le ministre. Pourquoi le ministre de la Défense n'arrive-t-il pas à déployer des militaires dans cette ville depuis plus de 10 ans aujourd'hui? Je parle de la ville de Bambouti, vous le savez très bien.
Vous savez, je voudrais vous dire ce que j'ai vécu et non ce que vous avez écouté. Il y avait une force régionale d'intervention qui avait été constituée parce que la menace qui avait été évaluée à l'échelle de l'Union africaine ont permis de constater que la solution ne peut être que concertée. Voilà pourquoi, à un moment donné, nous avons pris les moyens d'envoyer, de créer 4 états-majors dans la sous-région. 4 états-majors et... Pour le côté centrafricain, le chef d'état-major était le général Timangwa. Au niveau, par exemple, du Sud-Soudan, c'est un centrafricain qui avait coordonné. Il s'agit du colonel Dobigé. C'est lui qui assurait le renseignement. Se trouve être le général Johnson Freddy Sakama. C'est lui qui assurait l'aspect droit de l'homme, et etc. C'était moi. Vous voyez, donc, nous avons travaillé aussi avec les forces armées congolaises, sud-soudanaises, ougandaises, etc. pour cet état-major. Et donc, nous avons évalué. Donc, la présence de l'État était là. Et ça, je vous dis, c'est à la limite.
Non, on parle de maintenant, monsieur le ministre.
Bon, maintenant.
Avec le déploiement des forces dans cette ville.
Voilà.
Où aujourd'hui, on ne peut pas comprendre jusqu'à ce niveau. 10 ans passés.
Voilà.
On n'a aucune force de défense là-bas.
Il y a 10 ans. Mais entre-temps, il y a une crise aiguë qui est passée par là. Il y avait CPC qui nous a confisqué une bonne partie du territoire, y compris dans cette zone. Mais les efforts de reconquête a été un effort national de reconquête du territoire, bien que ça a été décrié, méthode avec qui on a fait ça. Mais le but final, c'était de reconquérir le territoire pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais cela se passe aussi par le redéploiement de l'autorité de l'État, la présence physique des entités de forces de sécurité et de défense opérationnelle, la lecture classique des dangers qui devrait nous permettre, après l'évaluation, d'envoyer ou identifier les menaces et envoyer les moyens qu'il faut pour les neutraliser.
Okay,
et ça, monsieur, je vous dis que les dispositions sont prises. Et donc, même si ça paraît invisible pour certaines personnes, mais pour le moment, je dis qu'il peut aussi observer
des dispositions, mais
le droit de garder le silence en attendant
monsieur,
ce qui est intéressant dans le discours du ministre Reboas, à chaque fois qu'on identifie une menace, une situation qui pourrait être dangereuse pour la République centrafricaine, il dit les dispositions sont prises. En réalité, il faut éviter de jouer le médecin après la mort, monsieur
le
ministre.
Non, au contraire, je suis dans la prévention.
Est-ce que je vous ai dit
la date à laquelle les dispositions sont prises? Mais c'est des anciennes dispositions qui nous permettent de suivre l'évolution des choses.
Allez-y, monsieur.
Alors, donc, vous voyez, il dit que les dispositions sont prises. Pourtant, nous savons tous qu'il n'y a pas de force de sécurité et de défense à Bambouti. Vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Les députés de la localité ou de cette région-là ont beaucoup parlé, ont beaucoup interpellé le gouvernement. Jusqu'ici, rien n'a été fait. Et donc, je pense que nous parlons de la vie des Centrafricains, nous parlons de la vie de la nation. Vous savez, aujourd'hui, et il le sait d'ailleurs, la République Centrafricaine a beaucoup perdu. Voyez-vous, quand vous allez ne serait-ce qu'à Cantonné, à Beloko, vous verrez que l'État camerounais ou les autorités frontalières du Cameroun ont essayé de grappiller certains espaces centrafricains. Ça ne nous dit presque rien. Vous arrivez aujourd'hui à Bambouti. Le risque aujourd'hui que nous perdions une partie de nos territoires n'est pas à écarter. Et donc, je suis de ceux qui pensent que, politiquement correct, ce discours, on peut le tenir, mais il s'agit des vies des Centrafricains. J'interpelle le gouvernement, je l'invite à déployer des moyens, déployer des forces de sécurité pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans ces zones.
Mais les moyens ne sont pas seulement liés à l'approche militaire. Il y a aussi les moyens diplomatiques.
Vous êtes déformé par votre formation, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce n'est pas parce que vous faites le renseignement, vous êtes dans l'analyse géopolitique.
Moi, je suis diplomate de
aujourd'hui. Mais c'est pourquoi vous êtes déformé par cette formation. Vous le savez très bien.
La diplomatie déforme.
Vous ne pouvez pas nier le fait qu'il n'y ait pas des forces de sécurité et de défense à Bambouti. Donc les dispositions qui sont prises là ne sont pas efficaces. Non. On est d'accord. Je ne remets pas en cause le renseignement, les aspects non militaires qui participent de la protection.
Voilà, désolé,
de nos frontières.
Désolé vous deux. Hein. Voilà, ainsi prend fin ce débat politique d'aujourd'hui consacré au sujet d'actualité ayant animé les débats en milieu politique. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Merci au ministre Aristide Briand Reboise, ministre de la Jeunesse et des Sports, écrivain. Et merci aussi à vous, Paul Cressant Beniga, ancien chercheur, docteur en sciences politiques et porte-parole du groupe de travail de la société civile sur les crises politiques en République centrafricaine. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.